I have great pleasure.
J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au vice-président de la République d'Irak, son Excellence Khuder Moussa Al-Khoussaï. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Sayyid al-Amin al-Am.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur John Inge, président de la 68e session de l'Assemblée générale, Majesté, Excellence, chef de délégation, que la paix et la bénédiction de Dieu vous accompagne. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, de participer à cette session de l'Assemblée générale pour discuter des questions importantes relatives au développement durable de l'après 2015 et la réalisation de ces objectifs, nous l'espérons, seront accessibles à tous. Ayant surmonté les graves conséquences des politiques économiques et sociales menées par le régime précédent, politique qui ne reposait pas sur une base scientifique, mais sur les caprices imprudents personnels du régime, l'Irak a cherché à traduire ce qui a été arrêté par les dirigeants mondiaux en 2000, notamment les 8 objectifs du développement en mesures pratiques et concrètes, en adoptant des plans, des stratégies et des lois d'exécution, établissant les messages et mécanismes nécessaires. L'Irak s'emploie à atteindre l'essence du développement durable, à savoir l'intégration de ces 3 dimensions économiques, environnementales et sociales. Au plan financier et monétaire, l'Irak mène des politiques s'efforçant d'augmenter les flux financiers de son budget public qui doit atteindre en 2015 environ 150 milliards de dollars, dont 40% sont envisagés à être alloués aux investissements nécessaires dans le but de fournir des services de base, améliorer l'infrastructure et renforcer le rôle de l'économie irakienne. L'Irak est parvenu à une croissance soutenue dans le domaine économique grâce à son plan de développement 2013-2017. Toutefois, le pétrole demeure toujours le moteur essentiel pour le reste des autres secteurs dû ou grâce aux réserves abondantes de pétrole et de gaz de l'Irak qui dépassent de beaucoup les estimations de réserves confirmées. Ces estimations font que le potentiel de pétrole qui peut être extrait se situe à 250 milliards de barils et pour le gaz à 250 000 milliards de pieds cubes. Nous comptons doubler la production de pétrole à la fin du plan 2013-2017 en augmentant les exportations du pétrole qui doivent atteindre en 2015 environ 3 700 050 barils par jour. Ainsi, le plan de développement 2010-2014 se concentre sur la viabilité de l'environnement et l'économie verte en Irak. Les objectifs stratégiques ont été recensés pour ce plan et pour le plan 2013-2017 de développement national approuvé récemment par le Conseil des ministres. Il s'agit premièrement d'adopter une stratégie d'atténuation de la pauvreté en tant que composante nécessaire à la réalisation du développement durable, en vertu duquel le taux est passé de 23% en 2007 à 19% en en 2012 en espérant qu'il baissera jusqu'à 16% en 2017. Deuxièmement, de réduire le chômage de 15% en 2007 à 11% en 2012 avec un recul potentiel escompté jusqu'à 6% en 2017. Troisièmement, faire passer le revenu moyen par habitant de 3 000 $ en 2009 à presque 6 000 en 2012 avec un taux de croissance annuelle de 15,9% indiquant des progrès économiques notables clairs. Quatrièmement, réduire la mortalité infantile jusqu'à 18 décès par 1 000 naissances en 2017. Il convient de noter que ces chiffres sont passés de 32 en 2011 à 22 en 2013. Le plan vise également à réduire le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans, les faire passer à 24 morts par 1 000 naissances vives en 2017, suivant leur déclin de 37 en 2011 à 28 en 2013. Cinquièmement, faire passer l'inscription à l'école primaire à 95% en 2017 par rapport au chiffre de 92% en 2012. Sixièmement, faire passer l'inscription à l'école secondaire à 40% et à l'université à 20% d'ici à 2017. Atténuer la désertification en poursuivant la récupération de terres où 2 millions d'hectares ont déjà été récupérés et nous avons l'espoir d'en récupérer 1 million de plus d'ici à la fin du plan. Huitièmement, utiliser des techniques modernes d'irrigation et utiliser l'énergie latente des ressources d'eau en se concentrant sur l'exploitation économique. Neuvièmement, réduire au minimum les quantités de gaz brûlé associées à la protection pétrolière en concevant des plans d'investissement en 2015. Dixièmement, lancer un programme de logement pour les pauvres et ceux qui ont un revenu faible, 1 million d'unités devant être disponibles à la fin du plan. Onzièmement, aboutir à l'autarcie énergétique en termes de production d'électricité. Nous envisageons d'atteindre une production de 22 000 mégawatts en 2015, donc un excédent de 15% par rapport aux périodes de pointe où la production d'électricité en 2003 était d'environ 2 500 mégawatts. Nous pensons qu'il est nécessaire de souligner ici les points suivants. Appeler à une coopération renforcée entre pays du Nord et du Sud et la coopération Sud-Sud pour lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle honore ses obligations. Deuxièmement, faciliter le transfert de technologies vers les pays en développement pour réduire l'écart qui existe entre ceux-ci et le monde développé et contribuer sérieusement au règlement de problèmes causés par le réchauffement et le changement climatique. Troisièmement, s'atteler aux problèmes causés par la pénurie en eau qui a déstabilisé certaines régions et souligner le besoin d'avoir des quotas d'eau justes entre États riverains de rivières internationales. Quatrièmement, donner un appui spécial à ceux qui souffrent de conflits et de sanctions économiques internationaux qui constituent un obstacle grave à la réalisation du développement durable. Cinquièmement, exercer de façon appropriée des pressions causées par les modes de production et de consommation insoutenables, surtout dans les domaines de déboisement, de pénurie d'eau, de gaspillage d'aliments et d'émissions de carbone élevées. Sixièmement, mettre en place des institutions responsables et effectives pour promouvoir l'état de droit, les droits de propriété, la liberté d'expression et des médias, en plus de l'administration de la justice et la lutte contre la corruption. Veillez septièmement à ce que le plan post-2015 repose sur un nouvel esprit de solidarité, responsabilité, coopération et intégration basé sur notre compréhension commune de l'humanité, notre respect mutuel en assurant une plus grande participation des pauvres et des femmes, de la société civile, des collectivités locales, des universités, des institutions philanthropiques et charité. 8. Prôner le besoin pour les gouvernements de jouer un rôle directeur dans le domaine de l'éducation, la nécessité de reconnaître que l'éducation est une responsabilité commune entre familles, collectivités, organisations de la société civile et que la contribution universelle à l'amélioration au développement de voies et moyens est importante. Neuvièmement, inclure parmi les priorités de réalisation des objectifs du développement durable au-delà de 2015 l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'égalité des sexes, le droit à un travail digne et l'accès aux postes de décision ainsi que la sécurité économique et sociale, tout comme la coopération internationale et l'intégration internationale pour se pencher sur les questions de développement soutenable et lutter contre la pauvreté extrême. Dixièmement, souligner l'importance des normes actuelles dans le domaine des droits de l'homme, le droit à l'indemnisation des victimes et à réparation dans le cas de violation des droits de l'homme. Onzièmement, nous attendons avec intérêt l'achèvement des travaux du groupe de travail émanant de Rio plus 20 sur le financement du développement ainsi que la création de fondements solides dans le domaine du financement des objectifs de développement durable et du programme de développement de l'après-2015 de façon prévisible et soutenable. À présent, mesdames et messieurs, je me dois de souligner qu'aucun développement durable avant ou après 2015 ne peut être réalisé tant que continuera d'exister le terrorisme organisé qui prospère au prix de l'effusion de sang d'innocents dès lors que leur vie leur est enlevée. Ce fléau a adopté l'extrémisme comme démarche, la mort comme instrument, tout comme la violence comme moyen, la haine et sa culture, et le meurtre insensé et sans discrimination sont hobby. Un tel phénomène appelle une prise de position stricte et pragmatique du monde entier face à cet assaut brutal et fou auquel la coopération pour lutter contre cela, la coopération internationale est nécessaire. On ne saurait aboutir au développement durable tant que les tambours de la guerre sont entendus dans plus d'un endroit du monde, car la paix, le développement et la vie ne peuvent perdurer tant que la mort, les guerres et les génocides existent. Il ne saurait y avoir de paix sans sécurité. Il ne peut y avoir de stabilité politique ni de développement en l'absence de coexistence pacifique, de sécurité, de stabilité. Un endroit sans endroit où les êtres humains peuvent vivre à l'abri de tous ces fléaux. Ainsi, l'Irak continue de lancer un appel pour des initiatives de règlement pacifique dans tous les pays où la guerre, les armes, la destruction l'effusion de sang prédomine, car la force ne peut produire la paix. La mort ou la guerre non plus. L'Irak et sa population ont beaucoup souffert des horreurs de la guerre causée par l'imprudence et les folies de l'ancien régime de Saddam. Et nous sommes gravement préoccupés par les événements qui s'aggravent, la situation qui est tendue le long des frontières avec la Syrie, pays avec lequel nous partageons plus de 600 kilomètres de frontières. Voilà pourquoi nous estimons que le conflit en Syrie est une menace grave à notre sécurité, notre stabilité et l'intégrité de nos terres et notre population. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à présenter notre initiative visant à régler la crise en Syrie de façon pacifique afin d'éviter une catastrophe humanitaire dévastatrice qui déborde, qui se déroule dans notre pays, dans le pays voisin, mais pourrait déborder sur nos frontières, sapant tous les aspects de développement, de stabilité, de prospérité auxquels nous aspirons dans notre région très importante. Ainsi, je vous invite à appuyer l'initiative de l'Irak pour assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité dans la région, sinon nous irons droit vers l'inconnu. La région est accablée par des guerres régionales de grande envergure qui ont commencé ou ont été déclenchées par une petite étincelle. Personne ne peut savoir quelle sera la portée, la tendance, la trajectoire ou le temps pour ces conflits. Par conséquent, on ne peut espérer qu'il y ait de développement durable, de stabilité ou de prospérité dans une région qui est déjà fragile, explosive et complexe. C'est là le message que le gouvernement et le peuple d'Irak vous adressent. Monsieur le Président, dans le sillage de la chute du dictateur, l'Irak a eu recours aux mécanismes démocratiques en tant que seul moyen de transfert pacifique du pouvoir. Nous croyons fermement dans la liberté, la dignité, les droits des êtres humains. Nous avons adopté une politique de portes ouvertes pour ce qui est de nos relations avec le monde entier. Et nous recherchons toujours des dénominateurs communs pour surmonter les désaccords par le biais du dialogue positif basé sur la justice et une implication responsable des pays voisins, notre région et le monde. Nous sommes fermement convaincus que les solutions pacifiques sont les moyens les plus efficaces pour régler tous les problèmes actuels entre peuples, nations et gouvernements. Nous rejetons la violence, le terrorisme et l'agression, quelles qu'en soient leurs sources. Nous avons lancé un appel à la tolérance, la réconciliation nationale et la coopération afin d'aboutir à la coexistence en communauté, à la paix sociale. L'instabilité et la prospérité. C'est ce qui a été adopté par la Conférence nationale sur la paix sociale qui a été tenue récemment à Bagdad et a été signée par le code d'honneur de la plupart des dirigeants irakiens et des symboles nationaux. Pendant plus de deux décennies, l'Irak a souffert de sanctions internationales à cause de l'invasion de l'État du Koweït par le régime précédent. Toutefois, ce nouvel Irak, grâce à sa coopération avec la communauté internationale d'une part et grâce à ses relations fraternelles avec le pays voisin, l'État du Koweït, a pu l'Irak a pu surmonter les effets des sanctions et travailler avec le Conseil de sécurité en adoptant la résolution 2107 du 20 septembre 2013, qui a mis fin aux obligations de l'Irak en vertu du chapitre 7. Et ainsi, les crises et problèmes soufferts par deux pays frères, l'Irak et le Koweït, font partie du passé. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir, vers les bases solides pour un avenir radieux des générations futures qui reflèteront les effets positifs de et ceci devrait projeter ces effets positifs sur l'ensemble de la région. Notre foi inébranlable dans nos frères humains ne nous empêche pas de défendre les droits des opprimés, des désavantagés, de ceux qui sont vulnérables. Ceci ne nous empêche pas de faire montre de solidarité avec la juste cause des nations arabes islamiques, d'élever nos voix pour défendre les droits de l'homme, l'humanité et les différentes causes. Nous appuyons le peuple palestinien qui a souffert d'oppression systématique, d'établissements constants de colons qui violent leurs droits et menacent leur identité existante et leur existence, une situation qui fait que le monde et les institutions internationales doivent jouer leur rôle et assumer leurs responsabilités et épauler un peuple qui ne demande que la réalisation de ses droits, liberté, justice, indépendance et l'établissement d'un État palestinien viable et l'absence dans la région du Moyen-Orient de tensions et d'instabilité. Pour que le Moyen-Orient puisse vivre en paix et en sécurité, nous réaffirmons l'appel à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient en mettant l'accent sur la conférence d'Helsinki sur l'établissement d'une région dès que possible de telle nature, car l'échec des efforts internationaux dans ce domaine affecterait la crédibilité du TNP qui pourrait aboutir à une course aux armements augmentant la fréquence des tensions et l'instabilité. Alors que les Nations unies sont le cadre agréé pour la coopération internationale et pour traiter des problèmes et des défis par la voie des négociations multilatérales, nous pensons que le moment est venu de réformer le Conseil de sécurité en tant qu'organe qui est le premier responsable de l'appel à sécurité internationale afin de répondre aux aspirations des peuples du monde au XXIe siècle. En conclusion, permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer au nom du peuple irakien nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à aider l'Irak à sortir du chapitre 7. Nous souhaitons à chaque nation du monde entier une vie dans la liberté, dans la dignité, en promettant un avenir